nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Après avoir mangé, ils sont retournés à l'hôtel en se promenant dans les rues. Le soir, pour se coucher, comme il n'y a qu'un lit, elle demande « Que faisons-nous ?» Et ils se sont couchés, trop fatigués pour qu'il se passe quelque chose. Pour ce qui est de la morale, ça ne les aurait pas gênés. Pendant ce temps, à Lyon, ou pendant ces temps à Lyon, le lendemain matin, de de leur fuite. La bonne est allée frapper à la porte de la chambre d'Apolline pour lui apporter son petit déjeuner. Pas de réponse. Elle pense qu'elle doit dormir. Elle va frapper à la porte de Charles-André. Pas de réponse. Elle retourne à la cuisine pour poser le plateau et dit au maître d'hôtel: « Le bohème et la comédienne dorment encore. » Le maître d'hôtel dit: « Je plains les parents avec ces deux-là. » Elle retourne plusieurs fois dans la matinée, toujours pas de réponse. Elle décide d'en parler à la mère, qui va voir. Elle frappe à la porte de sa fille et l'ouvre. Elle va chercher celle de son fils, la même chose. Surprise furieuse, son mari parti, Jules aussi. Dans l'anxiété, elle attend le retour de son mari. Constant revient. Sa femme lui dit la disparition de ses enfants.
J'avais interdit qu'elle sorte de sa chambre.
Elle n'est pas sortie de sa chambre, comme tu nous l'as dit, de toute la journée. Elle a dû partir cette nuit.
Il faut prévenir la police pour qu'ils nous la ramènent.
Surtout pas, quel scandale.
Eh bien, tant pis pour eux. Ils reviendront. Ils sont partis de toute façon sans argent. Ils ne peuvent aller bien loin. Quand ils reviendront, ils auront affaire à moi.
Les jours passent et n'ont pas de nouvelles des fugueurs. La mère s'inquiète en silence. Jules est furieux et jaloux. Pour se distraire, il écrit beaucoup. Pendant ce temps, à Paris, le frère et la sœur, perdus, déçus, ils ne savent comment faire pour sortir du guépier où se sont mis. La pièce à l'hôtel où ils sont ne leur convient pas. Ils ne se sentent pas en sécurité, ne peuvent pas avoir de vie privée. C'est triste, sale. Lorsqu'ils sortent pour se retrouver dans une rue populaire, étroite, grise. Depuis qu'ils sont à Paris, le temps est gris. Malgré qu'ils ne fassent rien de spécial, l'argent file. Ils aimeraient bien agir, mais leur timidité et leur manque de savoir où aller frapper pour demander du travail. Et puis, cette grande ville inconnue leur fait peur. Ils ne savent pas parler. Chercher quelque chose. Chacun a honte et ne veut pas dévoiler à l'autre sa faiblesse, car ils n'osent pas se dire les craintes qu'ils ont pour l'avenir, car cela engagerait la discussion qui démontrerait les faiblesses de chacun. La plupart du temps, ils n'osent pas sortir. Et restent dans leur chambre. Et s'ils sortent, c'est ensemble pour aller manger ou se promener un peu. Malgré tout, Apolline a moins peur de l'avenir, car elle se dit que Charles-André a de l'expérience et qu'il doit savoir ce qu'il faut faire pour vivre à Paris. Il lui trouvera sûrement une place de comédienne dans un théâtre quelconque. Il y en a tellement à Paris. Lui est plus inquiet. Il sait que ce n'est pas facile de se faire embaucher. Il y a beaucoup de journaux, mais où et comment y entrer? Mais au fond de lui-même, il se dit qu'avec la dernière extrémité, il a sa sœur, est fort jolie, et que le trottoir de Paris a de la place pour toutes les belles filles. Il se sent même prêt à la dépuceler lui-même s'il le faut. Bien sûr, ce n'est qu'une idée comme ça, d'une personne qui a beaucoup d'imagination et une imagination qui ne se laisse pas arrêter par la morale. Cette idée-là, il ne l'a pas pour la vie, mais pour le rêve ou la réalité. Mais malheureusement, écrire pour le moment, c'est impossible. On écrivait vraiment dans un endroit où l'on se sent bien et tranquille, dans cette chambre sans personnalité, sale, où l'on est, l'entend certains bruits des clients qui passent, où l'on n'est jamais seul, la sœur est toujours avec lui. Lui qui vivait pratiquement seul dans sa chambre, sans voir presque personne, là-bas dans la solitude, dans son décor, sans souci, son cerveau pouvait vagabonder à souhait et trouver des choses à écrire. On n'écrit vraiment bien que dans le calme et la tranquillité. Le soir, avant de se coucher, Apolline lave ses culottes et ses bas dans le lavabo, qu'elle étend sur une corde qui est tendue dans le coin de la pièce. Elle lave avec un gros savon de Marseille. En se disant, encore une journée perdue. Il continue à dormir dans le même lit. Cela gêne un peu Charles-André, car en vivant seul, il avait pris l'habitude de prendre ses aises et de se masturber tranquillement dans son lit. Là, il ne peut pas et passe ses nuits à soupirer et à se tourner et se retourner. Ce n'est pas qu'il a envie de sa sœur, il a envie, elle n'a pas trop de problèmes. Et puis, une femme qui a envie, cela ne se voit moins. Charles-André en a assez de ce truc qu'il a entre les jambes et qui montre ce qu'il a besoin. Pour la nourriture, le repas, pour le petit déjeuner, ils prennent au café du coin. Le déjeuner, c'est un peu de charcuterie déposée sur du pain, mangée en marchant au hasard. Et le repas du soir se fait dans un petit restaurant. Leur quartier, ils n'ont pas osé explorer la ville et dire qu'ils ont quitté Lyon et le beau quartier pour habiter, vivre dans ce coin. Ils ont beau aller et toujours aller aux mêmes endroits, personne ne leur parle. Ces deux étrangers qui semblent être riches et perdus dans un coin de gens sans un sou. soir, ils sont au restaurant à dîner. Charles André voit une table en face de lui, un homme qui grignotonne sur un morceau de papier froissé. Il semble être de taille moyenne, dans les 30 ans, le visage osseux, les cheveux gris, habillé d'un vieux costume râpé, marron. Tout en écrivant, il fume la pipe. De temps en temps, il observe le frère et la sœur. L'homme se lève et va vers eux, le papier froissé à la main. Charles André rougit. L'homme lui dit «
Tu m'intrigues, toi et la petite. Qu'est-ce que vous faites dans ce quartier ?»
Charles André rougit.
« Ne crains rien, ce n'est que de la curiosité. Je suis un artiste. »
Moi aussi, enfin, j'essaye de l'être.
T'es poète ?
Non, écrivain. L'homme fait la grimace et lui dit :
Ah, moi je suis poète. Ça, c'est du bel art. Tu as déjà été édité ?
Oui, mais une fois. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais j'écris.
Tu es en cabale avec ta bonne amie ?
Non, c'est ma sœur.
Mazette. Vivre avec sa sœur.
Charles André sourit gêné.
Et quoi ? Qu'est-ce que tu écris en ce moment, le monsieur ?
Pas grand-chose. Je suis en perte d'imagination.
Je peux m'asseoir ?
Oui. L'homme s'assoit. Et dit :
Tu me payes l'absinthe ?
Oui. Oui. L'homme fait signe au bistroquet.
Une absinthe. Et qu'est-ce que tu es venu faire dans ce trou pourri ? Trouver de l'inspiration ?
Non, je suis venu de Lyon. Et nous sommes arrivés ici par hasard en cherchant une chambre.
Et que comptes-tu faire ?
J'aimerais trouver du travail dans un journal.
C'est se prostituer. Écoute, tu écris des romans, des poèmes, mais pas de gribouillis.
Malheureusement, j'ai plus d'inspiration.
C'est pas grave. Il existe des tas de choses pour t'aider à la trouver.
Et comment ?
Pas des petites choses, mais des choses plus fortes que l'absinthe.
Quoi ? Dis-moi, ça m'intéresse.
L'opium, ça te va ?
Oui, ça peut. Me redonner le goût d'écrire, je suis pas d'accord. Je suis d'accord.
Tu viens chez moi ?
Oui, je veux bien.
Et ta sœur ?
Elle dit : Je suis avec vous.
Elle écrit, elle aussi ?
Non, elle veut être comédienne.
Ah ! J'ai justement un ami qui cherche des jeunes filles pour faire des tableaux figuratifs.
Elle lui demande « Qu'est-ce que c'est ?»
On représente des scènes, des tableaux vivants. Les comédiens miment ce qu'ils ont censé faire. C'est très intéressant. Il faut avoir un beau corps. Cela vous intéresse ?
J'ai déjà fait de la figuration. Je ne dis pas non.
Bien. Je vais vous présenter la petite demoiselle qui s'appelle
Apolline et mon frère Charles-André.
Moi, c'est Paul Volaire.
Charles-André lui dit : Nous, c'est Beaumandin.
Alors, on va finir la soirée chez moi ?
Elle lui dit : Oui. Et ils se lèvent tous les trois et sortent du café.
Nous allons un peu plus loin.
Ils le suivent. La rue est tout aussi triste et lépreuse. Ils entrent dans un petit immeuble de 3 étages, étroit et gris. L'allée est noire. Ils montent jusqu'au 2e étage. Il y a 2 portes barrières par étage. L'homme va ouvrir celle de droite. Ça sent l'encens et autre chose. On ne peut pas dire que c'est désagréable. Petit couloir qui donne sur une autre porte vitrée, cachée par un gros rideau bordeaux. Paul va ouvrir cette porte.
Entrez. Ils entrent.
La pièce est de taille moyenne. Il y a des tapis à terre. La fenêtre est fermée par un double rideau bleu foncé. Il y a dans un coin de la pièce une table basse avec des accessoires pour l'opium et des coussins de multicoloris. Et contre un mur, une commode. Asseyez-vous. Le frère et la sœur, gênés, vont s'asseoir sur les coussins à côté de la table.
Paul va se mettre en face d'eux.
Il leur dit, vous savez ce que c'est que ça? C'est ce qui va vous ouvrir l'esprit, le libérer de la pesanteur. Vous êtes libre de toute contrainte, vous n'avez plus de limites. L'esprit est roi. Roi. Avec ça, la création est un jeu d'enfant. Vous l'essayez ?
Jean-Landré lui dit. Oui, je connais un peu.
Et la jeune fille ?
Je veux bien.
Il prépare trois pipes.
Donne une pipe à chacun. La première pipe les fait tousser. Les yeux pleins. Les narines piquent. Ils se sentent engourdir. Apolline aimerait appeler Charles-André, mais elle ne peut pas. Ils se sont avachis. Le corps se calme. La sueur sur les visages. L'on tousse, les yeux qui pleurent toujours. Puis, les premières difficultés ont disparu. L'on voit des choses trembler. Double. Trouble. Ça se déforme, des couleurs. Et on ne sent plus son corps. On est léger. L'on vole. Les oreilles bourdonnent. L'on entend des échos. Des bruits cristallins. L'on plane.
puis... Le calme. Lorsque Charles-André revient à lui, il a la bouche sèche. Sèche. Froid. Il voit ce qui l'entoure avec surprise et dégoût. L'impression de peser des tonnes, d'avoir le souffle court. Apolline, qui est près de lui, est avachie et ne semble pas le voir. Paul le regarde bien et lui dit « Je ne peux pas t'en donner encore une. Ça coûte cher. » Une heure plus tard, ils sont encore tous les trois dans la fumée d'opium. Après avoir fini, une douce lassitude les prend. Paul dit à Charles-André, « Ce que j'aime en toi, c'est ton élégance. Je suis sûr qu'on te prend pour quelqu'un de la haute. » Charles-André lui dit, « Mais je suis de la haute. Nous sommes les enfants de Monsieur Constant de Beaulandin. » Paul lui dit, « J'aimerais faire quelque chose pour toi et ta sœur. Vous aider en quelque sorte. » Charles-André lui dit, « Je vous remercie, mais comment ?»« En me rendant un petit service, et en échange, je vous ai dit tout ce que vous écrivez, et je présente votre sœur à un directeur d'un grand théâtre. »« En échange de quoi ?»« Rien. Vous épousez Madame de Saint-Auban, une des plus grandes fortunes de France et même d'Europe. »« Et pourquoi devrais-je épouser cette personne ?» Parce qu'elle est riche et que sa fortune m'intéresse. Alors pourquoi ne le faites-vous pas? Vous voyez, moi, dans les salons, je n'ai pas la classe. Donc, il faut une personne pour me remplacer. Et j'ai pensé à vous. Comment cette idée aussi bizarre vous est-elle venue? Mon père était jardinier de Madame de Saint-Auban. J'ai passé mon enfance à l'office. J'ai vraiment aimé Mathilde. Mais... je me suis très vite rendu compte que je n'étais pas à sa hauteur, que même si j'avais de la fortune, je n'arriverais jamais à me faire aimer par elle, à entrer dans son corps, à conquérir son corps, si tu veux. Les années ont passé, elle s'est mise à me dédaigner de plus en plus et à m'ignorer. Mais moi, mon amour s'est transformé en désir de dominer sa vie. Elle s'est mariée, puis est devenue veuve. Alors j'ai eu l'idée, c'est de la faire marier à un homme du monde que j'aurais choisi. Vous êtes beau, jeune, avez un nom, j'ai la fortune. De la fortune? Et qui vous vient de quoi? De certaines connaissances que je fais entre l'Orient et l'Occident. Connaissances peu flatteuses, mais qui peuvent rapporter gros. Et que penserait votre famille de votre union avec la banque de Saint-Auban? Je n'ai pas du tout l'intention de me marier avec qui que ce soit, même pour faire votre fortune. Même pour cela, tant pis alors. Pas de livrédité ni de pièces à jouer. Charles-André se lève ainsi que sa sœur. Il se sent pas très en forme, les jambes qui flageolent. Paul lui dit, « Vous voulez vraiment pas faire la connaissance de Mathilde ?»« Non. »« Dommage. Elle est très belle, vous savez. Mais si vous changez d'avis, je pourrais toujours vous la présenter. Et je suis souvent au restaurant où vous m'avez rencontré. »« Je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Vous vous êtes trompé. »
vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.